Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, de la joie et de l'angoisse, les premiers résultats de Parcoursup sont tombés, c'était hier soir à l'heure du dîner. Reportage à suivre. Le coup de froid entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à 10 jours des élections européennes. La chancelière évoque une relation faite de confrontation. Le président français lui répond et assume ses divergences. On entendra le chef de l'État. Dans l'actualité également, les chiffres du chômage qui doivent tomber d'ici quelques minutes. La fin de la garde à vue aujourd'hui de l'anesthésiste de Besançon qui pourrait être poursuivi dans des dizaines de dossiers d'empoisonnement suspects. Et puis on parlera aussi dans ce journal d'une étude qui fera date sur les liens entre le cerveau et le cancer et de Romain Gary en papier bible. L'écrivain fait son entrée dans la Pléiade.
Je vous rappelle que la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, sera au micro d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Le soulagement, l'attente ou la déception, Sébastien, les lycéens ont découvert hier soir les premiers résultats de Parcoursup.
900 000 personnes en théorie étaient supposées s'y connecter, pas de gros bugs à part quelques ralentissements momentanés. L'algorithme de la plateforme a donné ses premières réponses à 19h hier soir. Sandrine Etoa-Handeg était aux côtés de lycéennes de Terminale L à Boulogne quand elles ont appris la nouvelle.
Ah, ok, bah ça remarche.
Après plusieurs tentatives, Julie découvre enfin les réponses à ses trois vœux, entourée de ses parents.
J'ai entré le mot de passe. Alors, oui, j'ai été acceptée là où je voulais. Je suis vraiment super contente parce que je stressais vraiment et c'est vraiment là où je voulais aller, donc c'est vraiment génial. Mon vœu principal, c'était l'Hippocagne, donc j'avais mis plein d'établissements, une licence de langue.
La prochaine étape maintenant pour vous, c'est quoi?
Je vais accepter directement l'établissement où je veux aller. Et je vais refuser tous les autres.
Pour vous, maman, alors?
C'est super, ouais, c'est très très bien.
Tileni, elle, la camarade de classe de Julie, rit jaune.
Je suis mise en attente de partout. Mais apparemment, ça se renouvelle tous les jours, donc du coup, je dois regarder tout en H24 sur mon portable jusqu'à que les places se libèrent.
Et ne pas savoir, c'est stressant?
Oh oui, très frustrant même.
Anne, elle, a d'autres problèmes.
J'ai été acceptée partout, voilà, donc j'ai que des oui.
Vous avez formulé combien de vœux?
16. Information et communication. Je pensais vraiment avoir des noms partout. Et en fait, ça m'angoisse plutôt qu'autre chose. Parce que j'ai 3 jours maintenant pour me décider de où je vais aller. Et j'avais pas prévu ça, mais j'ai ma meilleure amie qui a rien eu. Elle a eu que des noms.
Et elle a même pas ce genre de solution de repli.
Non.
Si, définir un nouveau projet d'orientation.
Et Sandrine Etoa-Handeg, les lycéens ont 4 jours jusqu'à dimanche pour accepter, refuser ou placer en attente là où les propositions reçues. Puis après dimanche, le délai de réponse sera ramené à 3 jours maximum selon le ministère.
Et entre Paris et Berlin, Sébastien, c'est « Je t'aime, moi non plus ».
Cela fait quelques mois déjà qu'on sent de l'agacement entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Pas d'accord sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, pas d'accord sur le Brexit ou sur l'idée d'un budget propre pour la zone euro. Hier, la chancelière allemande a mis des mots sur cette tension latente. Interrogée dans le journal allemand la Süddeutsche Zeitung, elle parle de ses différences de lutte avec le président français. Une relation de confrontation qu'assume complètement Emmanuel Macron, qui lui a répondu hier soir.
Je crois que la chancelière Merkel, dans son entretien, a dit la même chose que ce que j'ai dit à quelques mètres d'ici en parlant d'une confrontation féconde. Elle a dit « on travaille ensemble en permanence ». Nous trouvons des compromis, on essaie de les bâtir, mais il y a de la discussion. Vous savez, dans une relation, en particulier entre la France et l'Allemagne, quelles sont les options? Il y a le scénario de la confrontation stérile. On n'est pas d'accord et on n'arrive pas à aller au-delà de nos désaccords. On a connu ça par le passé, ça peut conduire au pire. Soit à l'impuissance, soit à la guerre. Il y a un autre scénario qui est l'entente stérile. C'est-à-dire, on veut tellement pas dire ou laisser dire qu'on peut être en désaccord, qu'on ne décide plus rien. Ça aussi, on a connu par le passé. On fait des conférences de presse inutiles et on laisse l'Europe s'endormir parce qu'on ne veut pas être en désaccord sur quoi que ce soit. Ce qui est attendu de la France en Europe, c'est de dire clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle porte, quelles sont ses ambitions, et ensuite de construire un compromis avec l'Allemagne pour pouvoir avancer. C'est ça notre histoire. Et c'est le cœur de notre relation. C'est comme ça que nous avons avancé sur beaucoup de choses et que nous continuerons à le faire. Avec le même esprit de construction et d'avenir qui nous anime, la chancelière Merkel et moi-même.
Emmanuel Macron, micro de Nathanaël Charbonnier. Parmi les dossiers sensibles du moment entre la France et l'Allemagne, la sucrerie d'Eppville dans la Somme, promise à la fermeture par son propriétaire allemand Südzucker. Les betteraviers du nord de la France proposaient de la racheter, mais le sucrier a fermé la porte à cette possibilité. Hier, pas question de vendre Südzucker qui entend faire remonter le cours du sucre qui s'effondre depuis des mois. En bref, encore en économie, les bons chiffres du chômage en France, ils viennent de tomber. Les chiffres du Bureau international du travail, résultat un recul de 0,1% au premier trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent. Le taux de chômage en France est aujourd'hui de 8,4% en métropole et de 8,7% avec les DOM. Quand le droit de vote s'élargit aux personnes placées sous tutelle, des personnes atteintes de handicap physique ou mental, depuis 2 mois, plus aucune restriction au droit de vote pour ces 300 000 citoyens. Plus question notamment de l'avis d'un juge. À 10 jours du scrutin européen, les mairies tentent donc de s'organiser pour accueillir ce nouveau public. Pas toujours simple. À Paris, un guide a été installé dans chacun des 896 bureaux de vote. Un guide appelé Falk, Lisa Guyenne.
FALC, l'acronyme de « facile à lire et à comprendre ». C'est un langage simplifié, explique Nicolas Nordman, adjoint au handicap à la mairie de Paris.
Des phrases simples, courtes, des icônes, des images qui permettent aux personnes de mieux comprendre. Et donc les affichettes vont rappeler où on va, qui on s'adresse, quelles pièces il faut fournir, et puis après, quel est le parcours à l'intérieur d'un bureau.
Des affichettes et une vidéo d'explication.
Rentrez dans l'isoloir, fermez le rideau et mettez un seul bulletin dans l'enveloppe.
Car si la plupart des bureaux de vote est équipé pour les personnes en fauteuil ou les malvoyants, il reste encore de gros progrès à faire pour ce qui est des handicaps mentaux, précise Nicolas Nordman.
L'objectif, c'est d'aller encore plus loin pour permettre aux personnes en situation de handicap psychique et mental de pouvoir exercer aussi ce droit.
Une avancée dont se réjouit Lassen Erradjaoui, président de l'association de handicapés Nous Aussi. Il souffre d'une déficience intellectuelle à la suite d'un accident.
Ça fait 10 années qu'on le réclame. Il faut faire en sorte que les personnes aillent voter, mais pour faire en sorte qu'elles aient voté, il faut rendre tout accessible, il faut accompagner les personnes à voter.
Il regrette cependant que le FALC ne soit pas encore généralisé en France.
Ça avance, mais à petit pas.
À Paris, le dispositif a coûté un peu plus de 17 000 euros à la ville.
Lisa Guyenne, avis aux contribuables. Ce soir à minuit, attention, c'est la toute dernière limite pour rendre votre déclaration de revenus papier. Vous avez jusqu'au 4 juin pour la déclaration Internet. Et puis c'est l'un des nouveaux outils du gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique. Le Conseil de défense écologique annoncé à la fin du grand débat, le premier du genre, aura lieu la semaine prochaine, le 23 mai.
On en vient 7h37 à cette étude médicale inattendue, Sébastien, sur la responsabilité du cerveau dans certains cancers.
Oui, c'est une étude française du CEA INSERM publiée dans Nature. Elle démontre que le cerveau est en effet un complice important dans le développement d'une tumeur cancéreuse et dans sa dissémination en métastase, au moins pour le cancer de la prostate sur lequel l'étude porte. C'est une chose que l'on ignorait totalement jusqu'à présent et qui pourrait bien à terme bouleverser la thérapeutique. Véronique Julia.
En 2013, la principale chercheuse de l'étude, Claire Magnon, chef d'équipe à l'INSERM CEA, avait établi, et c'était déjà une première à l'époque, que des tumeurs cancéreuses de la prostate étaient infiltrées de fibres nerveuses. Cette fois-ci, elle va plus loin et démontre que c'est le cerveau qui envoie vers la tumeur des cellules nerveuses immatures qui vont ensuite s'y développer et favoriser l'aggravation de la maladie et la prolifération des métastases. Les cellules en question vont franchir la barrière qui protège le cerveau, la barrière dite hémato-encéphalique, qui est d'habitude très étanche. Elles vont ensuite se diriger vers la tumeur via la circulation sanguine. Il y a donc un dialogue, une communication entre le cerveau et la tumeur. Et ce qu'a prouvé Claire Magnon, c'est qu'en empêchant cette communication, la tumeur ne se développe plus.
Sur des modèles précliniques chez la souris, en fait, on s'est rendu compte que quand on détruisait ces cellules au niveau du cerveau, quand on empêche la migration de ces cellules et donc la présence de ces cellules dans la tumeur, on bloquait le développement de la tumeur.
Cette découverte a été mise en évidence pour des cancers de la prostate. Des études sont en cours sur le sein et tout porte à croire que c'est observable aussi sur d'autres cancers. Elle ouvre la voie évidemment à de nouvelles pistes thérapeutiques. Elles consisteront à aller tuer ces cellules nerveuses immatures, non pas dans le cerveau, mais dans la circulation sanguine, et donc à bloquer leur migration avant qu'elles n'atteignent la tumeur.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter. À l'étranger, une partie du Brésil se soulève face au président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Première grande manifestation de rue hier dans tout le pays, des centaines de milliers de personnes à Rio, pour protester contre les baisses drastiques du budget des universités, moins 30%. Les États-Unis soufflent le chaud et le froid au Moyen-Orient. Washington appelle son personnel diplomatique non essentiel en Irak, invoquant une menace imminente en lien avec l'Iran voisin. Mais dans le même temps, Donald Trump renouvelle ses appels au dialogue. Je suis sûr que l'Iran voudra bientôt discuter, a lancé hier le président américain sur Twitter.
7h39, on termine avec la belle revanche de Romain Gary.
Et souvent considéré comme un romancier facile, l'auteur de La promesse de l'aube et de La vie devant soi fait son entrée dans la Pléiade près de 40 ans après sa disparition. Pour l'écrivain caméléon aux deux prix Goncourt, le deuxième remporté sous le pseudo d'Émile Ajar, La Pléiade est un nouveau tour joué aux critiques, des critiques qui l'ont tant méprisé de son vivant. Ilana Mourioussef.
Mireille Saccotte se souvient que lorsqu'elle a voulu mettre Romain Gary au programme de licence, ses collègues ont voté contre comme un seul homme. Pas assez chic pour être un grand écrivain, lui a-t-on objecté.
Ce qui lui a le plus nuit, c'est d'être gaulliste. Alors ça paraît extraordinaire quand on se dit qu'il a fait partie des premiers de la France libre en Angleterre. Moi qui ai commencé quand même il y a longtemps, je suis stupéfaite par la Garymania actuelle. C'est venu doucement par les jeunes. On l'a méprisé en tant que... écrivain populaire.
Dans l'édition de La Pléiade qu'elle a dirigée, Mireille Saccotte s'attache au contraire à montrer les sens cachés, les jeux d'identité multiples sous la simplicité apparente. L'identité, toute une histoire, comme Gary le laisse deviner dans cet archive de 1969.
Le bonheur, c'est se débarrasser de soi-même, d'abord. Une des choses les plus extraordinaires qui m'est arrivée, c'est une enquête venue de Nice, où l'on me demande, on parle de la solitude de l'écrivain, comment sentez-vous comme solitude de l'écrivain? Alors là, vraiment, les bras m'en sont tombés, parce que la solitude de l'écrivain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je suis là avec mes personnages dans mon roman, je n'existe pas. Je ne suis pas seul parce que je n'existe pas. Je disparais.
Au paradis des personnages de roman, Momo et Madame Rosa doivent être rudement contents. Ils vivent désormais sur papier bible.
Romain Gary, roman et récit, deux volumes à retrouver donc dans la Pléiade.
Merci Sébastien Legénie. Soisigbourg, deuxième point route.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Et il y a, Soisic, un bouchon en région parisienne.
Oui Nicolas, un très gros bouchon même dans le Val-de-Marne sur la 86 extérieure après un accident entre deux voitures. Presque 2 heures de ralentissement sur 11 km entre Créteil et Fresnes, là où a eu lieu l'accident. Sur deux voies, l'une est fermée sur la gauche. En Essonne, ça bouchonne sur la 6. Plus d'une demi-heure d'Evry jusqu'à la porte de Gentilly. Des bouchons, il y en a aussi dans le nord. 35 minutes sur la 25 d'Erquinghem à Loos, direction Lille. Et puis dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux. Là, vous avez une demi-heure de Saint-Vincent-de-Paul jusqu'à Carbon-Blanc. Du monde aussi pour arriver à Lyon par la 46 et la 6. Comptez un bon quart d'heure de bouchons à chaque fois.